un podcast France Culture.
Nous entendons parler d'eux quotidiennement ou presque. Ils sont au cœur des discours politiques depuis des décennies et semblent se suffire à eux-mêmes. Nécessaires pour certains, délétères pour d'autres. Toute cette semaine, Entendez-vous l'écho se penche sur trois grands concepts qui permettent de qualifier l'intervention de l'État dans l'économie et ce, à des degrés divers. Relance, rigueur et régulation. À chaque époque, sa recette pour redresser la barre, amorcer un tournant ou faire face aux crises. Alors comment ces notions économiques sont-elles devenues des principes politiques? C'est ce que nous allons voir, en commençant aujourd'hui par nous plonger dans les hauts et les bas des politiques dites de relance, invoquées pour remettre l'économie sur les rails de la croissance. Pour en parler, nous recevons Jacques Mistral, économiste, ancien professeur à Sciences Po et à Harvard et auteur de « La science de la richesse » publié aux éditions Erol en 2019 et de « Économie et politique », ça s'est paru chez Gallimard en octobre 2023. Également avec nous à distance depuis Grenoble, Jean-François Ponceau, professeur de sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, chercheur au laboratoire Pacte et co-auteur avec Marc Lavoie et Virginie Monvoisin de « L'économie post-keynésienne » paru en 2022 dans la collection Repères et ça, c'était à la découverte. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on entre un petit peu plus dans le détail de vos parcours respectifs. Jacques Mistral, à vous l'honneur. Vous êtes économiste universitaire, nous l'avons dit, mais pas que. Vous avez observé de près l'économie en occupant des postes à la fois auprès du pouvoir, mais aussi dans le privé.
Oui, en quelques mots, j'ai eu la chance de commencer l'économie en écrivant avec Robert Boyer un livre qui est considéré comme un des livres fondateurs de la théorie de la régulation. Mais à la différence de mes amis et collègues de l'époque, j'ai souhaité effectivement voir comment marchait l'économie dans la vraie vie, si l'on peut dire. Et à côté de l'enseignement, auquel j'ai donné une bonne partie de mon temps tout au long des décennies passées, j'ai effectivement eu l'occasion de travailler auprès du Premier ministre et du ministre des Finances dans des positions de conseiller économique, de conseiller senior la deuxième fois. J'ai travaillé aussi pendant 8 ans dans un grand groupe privé, financier, et une carrière internationale dans ce parcours. Et puis, enfin, j'ai tâté de la diplomatie économique en étant pendant plusieurs années le conseiller économique à l'ambassade de France à Washington, avant de revenir, comme vous l'avez dit, à Harvard, à la Brookings, à l'IFRI, et donc de retrouver maintenant, depuis 15 ans, une vie d'auteur économique.
Un large regard sur l'économie dans la vraie vie, donc. Jean-François Ponceau, de votre côté, sur quoi portent vos recherches et de quel poste observez-vous l'économie ?
Bien, moi, disons que j'ai une double casquette. J'ai une casquette, on va dire, post-keynésienne sur des questions d'histoire de la pensée économique et de la macroéconomie. Mais l'autre influence pour moi très forte, c'est celle de l'institutionnalisme monétaire en France. Toutes les théories de Michel Aglietta, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, ou André Orléans, Bruno Terret, Jérôme Blanc. Parce que je considère que ces travaux qui mettent l'accent sur la monnaie comme une institution sont parfaitement complémentaires pour comprendre les dimensions macroéconomiques de la monnaie. Alors au niveau des terrains, j'ai exploré différents terrains, plutôt l'Amérique latine, j'ai beaucoup travaillé en Équateur. Pourquoi l'Équateur ? Parce qu'en fait, ce pays est dollarisé complètement. Et j'avais fait ma thèse sur la dollarisation, un thème sur lequel je continue à travailler. Et récemment, j'étais au Cambodge, où je participais à un workshop à la Banque centrale. Pourquoi le Cambodge ? Parce que ce pays, lui, cherche à dédollariser. C'est-à-dire c'est une économie qui est très largement impactée par l'utilisation du dollar. Et l'idée, c'est de reconquérir une forme de souveraineté sur la monnaie, en non pas se débarrassant complètement du dollar, mais en limitant son usage.
Alors une fois ces présentations faites, entrons dans le vif du sujet, et on va dire avec des problématiques un peu plus nationales que ce que ces perspectives viennent d'ouvrir. Lorsqu'on parle de relance ou de politique de relance, qui est notre sujet du jour, il ne faut pas se méprendre, celle-ci n'est en rien une théorie, Jean-François Ponceau.
Oui, ce n'est ni une théorie, ni un concept. Je crois que conceptualiser la relance, c'est quelque chose qui est très compliqué. La relance, ça fait plutôt partie, on va dire, de la palette, en tout cas de la boîte à outils qu'ont les dirigeants politiques, les policy makers, hein, ceux qui sont aux manettes, pour essayer d'impacter le cycle économique et essayer de relancer la croissance quand ils considèrent qu'elle est insuffisante. Bon. Donc en réalité, cette question de la relance, c'est une notion un peu vague pour les économistes, on en parle très souvent. Et on lui donne une définition qui est très différente selon les époques. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, on parlait pas vraiment de relance. Dans les années 1960, on a mis en place des politiques de relance. Ensuite, on a considéré que ça ne fonctionnait plus. Et puis, il y a eu une espèce de Big Bang après la crise financière globale en 2008-2009, où là, on a réhabilité la relance de la politique budgétaire, quelque chose qu'on avait eu tendance à oublier pendant les années 1990 et 2000.
Vous venez de nous donner là un bon aperçu de tout ce qui va être discuté tout au long de cette émission. On va s'attarder sur chacun de ces points que vous venez d'évoquer. Jacques Mistral, est-ce qu'il est possible de savoir à partir de quand la relance en tant que telle est présentée comme une politique économique en soi ? On aurait tendance à spontanément la dater du fameux New Deal de Roosevelt, mais est-ce vraiment juste ?
Je suis, pour commencer, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Ponceau. Ce n'est pas un concept, c'est un terme du débat de politique économique. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que c'est une problématique, effectivement, qui remonte à la grande crise des années 30. C'est un terme, en tout cas, qui aurait été inenvisageable dans les décennies précédentes, ou au 19e siècle. Donc, ce sur quoi vos trois termes attirent l'attention, c'est sur le fait qu'effectivement, au lendemain de la Grande Dépression, est apparu sous la plume de Keynes, est apparue une conception nouvelle des relations entre l'État et le marché. À l'époque, les économistes et les hommes politiques avaient une confiance totale dans le fait que l'économie était spontanément auto-équilibrée. Et donc le chômage de masse qui est apparu à partir de 1929 est apparu et a constitué un défi intellectuel et politique considérable. Souvenez-vous de Hoover, le président américain annonçant la reprise au coin de la rue. Donc ce qui est important en nous entraînant aujourd'hui sur ce terrain de la relance, c'est de réfléchir à la conception totalement nouvelle des relations entre l'État et le marché, qui s'est développée à partir de la théorie générale, plus que sur l'hydraulique, si je puis dire, des mesures budgétaires ou monétaires par lesquelles chaque gouvernement cherche à se tirer d'une situation qui est toujours un peu difficile.
Cela dit, Jean-François Ponceau, avant de rentrer dans un détail, on va dire, historiquement ancré, qu'est-ce qui déclenche l'impératif de relance ? Quel est l'indicateur qui doit alerter ? Est-ce que c'est une baisse de la croissance durable ? Typiquement, on parlait de la grande crise de 1929. Pourquoi c'est ce moment-là qui a constitué un point de non-retour, on va dire ? Quels indicateurs permettent de savoir qu'il faut engager une politique spécifique à ce moment-là ? Il faut qu'il y ait crise ?
Crise, ça dépend si on parle de crise conjoncturelle ou de crise plus profonde, comme la grande dépression des années 1930, dont vient de parler Jacques Mistral. En réalité, quand on parle de relance, on peut se situer à deux niveaux. Une relance, on va dire, conjoncturelle, ponctuelle, lorsque, par exemple, on a un ralentissement de la croissance économique, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire la croissance tend vers 0%, et on veut éviter de rentrer en récession ou en déflation. Et donc, on va essayer de relancer, donner un coup de boost hein, pour essayer de refaire repartir le cycle économique et la croissance. Et puis, il y a une croissance qui, on va dire, qui est plus structurelle, dont on parle beaucoup moins, mais qui est au moins aussi intéressante, qui consiste à essayer de changer les structures de l'économie. Typiquement, dans les années 1930, les solutions qui ont été apportées à travers l'influence de Keynes, enfin plutôt après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt de la relance conjoncturelle, c'est-à-dire on veut essayer de relancer la machine économique, diminuer le chômage, et donc on stimule la demande. Mais en même temps, il y avait chez Keynes et chez d'autres une réflexion de relance pour essayer de relancer un système économique qui était parvenu à bout de souffle, hein, une crise profonde de système. Et c'est un peu ce qui s'est passé au cours des années 2000. Hein. Donc je situerai la relance à deux niveaux, au niveau conjoncturel, ponctuel, au moment où on a le taux de croissance, on est polarisé sur le taux de croissance du PIB. et il tend à diminuer. On veut relancer la demande, et puis la relance, on va dire, plus structurelle, de long terme, qui est quelque chose de plus compliqué à résoudre.
Alors, vous parliez de Keynes, et justement, on va voir quelle influence il a pu exercer dans les années 30.
Nous avons la physique pour nous. Lorsque, par exemple, nous diminuons les besoins d'emprunt de l'État et des collectivités de 20 milliards, lorsque nous faisons part de notre intention de nous abstenir pendant 6 mois d'emprunts à long terme sur le marché financier, nous sommes sûrs de faire refluer vers les producteurs et les commerçants de ce pays un volume de capitaux qui sera l'un des facteurs de la reprise.
Nous avons la physique pour nous, à entendre le ministre des Finances Paul Reynaud, en poste de novembre 1938 jusqu'à mars 1940, et qui exprimait là, lors de son arrivée au pouvoir, la reprise semble être une science quasiment exacte. Jacques Mistral, ça fait partie d'une sorte d'exercice politique que de présenter les effets des politiques publiques comme quasiment automatiques, mécaniques.
J'ignorais cette déclaration que je trouve claire comme du cristal, parce que elle illustre exactement ce que nous disions il y a un instant l'un et l'autre, c'est-à-dire que les conceptions économiques de l'époque dominantes étaient fondées sur le caractère auto-équilibrant des mécanismes économiques. On ne peut pas, Monsieur Reynaud aurait pu être un professeur de sciences économiques en expliquant comment, en réduisant les emprunts sur le marché des capitaux, il allait stimuler l'offre de capitaux en direction du secteur productif. Et donc, effectivement, tout ce qu'a apporté Keynes, c'est l'idée que dans certaines situations, il ne faut pas dire que ce mécanisme ne marche pas. C'est-à-dire que nous allons trouver bien des circonstances dans lesquelles on aura l'occasion de l'utiliser. En économie, on n'est jamais tout d'un côté ou tout de l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque où Paul Reynaud disait cela, évidemment, ce mécanisme équilibrant ne fonctionnait pas. Alors, je suis assez d'accord avec la distinction que suggère mon collègue, en disant que effectivement il y a une relance de type conjoncturel qui a un sens, on disait vague tout à l'heure. Non, la relance conjoncturelle, ça a un sens assez clair. Il s'agit de dépenser plus, de dépenser intelligemment si on le peut, ce qui n'est pas toujours le cas, mais de dépenser plus et de baisser les taux d'intérêt. C'est ce qu'avait fait la Banque Centrale Européenne depuis 3 ans, en mettant des taux d'intérêt égaux à zéro. Donc ça, c'est un sens qui est assez clair. Après, on discute techniquement, ça devient compliqué ou polémique, mais c'est clair. Je suis en désaccord avec l'idée de relance structurelle. Je trouve que les deux termes ne vont pas bien ensemble, parce que les structures se lancent pas, elles se relancent pas. Donc, je vois l'idée qu'il a introduite et qu'on va développer dans les minutes qui viennent, mais je mettrai cela en dehors du mot de relance proprement dit. On est dans un univers différent. Celui de la croissance longue n'est pas celui des changements de structure, celui des relations entre les institutions et le marché, ce n'est pas sous le vocable de la relance que l'on peut efficacement en discuter.
Alors on verra à travers des exemples historiques et empiriques dans quelle mesure effectivement la relance peut contribuer à modifier les structures même de nos économies. Mais avant cela, Jean-François Ponceau, il faut dire que juste avant Paul Reynaud, c'est un autre grand personnage, Pierre Mendès France, qui expose de façon assez claire les idées de John Maynard Keynes lors du deuxième et très éphémère gouvernement Blum d'avril à novembre 1938. C'est la première fois alors qu'un programme politique fait référence explicitement aux travaux de Keynes.
Oui, alors c'est malheureusement il n'y a pas de support audio pour l'époque.
Non, on n'en a pas trouvé en tout cas.
Que quelques mois auparavant de l'extrait que vous avez diffusé, Pierre Mendès France, qui était à l'époque sous-secrétaire au Trésor et aux Finances du second gouvernement Léon Blum, qui était vraiment éphémère, qui a duré 2-3 mois, et en fait il a proposé un programme de relance, c'est le terme qu'il utilisera plus tard pour le qualifier, qui est fondé sur une forme de keynésianisme. À l'époque, Mendès France était un des rares en France à avoir lu la théorie générale, donc il s'en inspire en grande partie. Sauf que ici, c'est un keynésianisme un peu particulier, c'est un keynésianisme, on va dire, militaire. C'est-à-dire que il part du principe que pour parvenir aux objectifs de relance de l'économie française de l'époque, eh bien, les dépenses d'investissement dans l'armement permettent de réaliser à la fois un objectif, on va dire, macroéconomique, de relance économique, de réduction du chômage, mais en même temps répond à des objectifs plus politiques qui correspondent à l'époque. Bon, alors évidemment, c'est une période très mouvementée. Ce programme ne sera pas appliqué, il n'aura pas le temps d'être appliqué. Et puis, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de retenir que c'est la première référence, en France en tout cas, à cette idée de relance par l'investissement en s'inspirant de Keynes et de la relance par la demande.
Et à partir de là, peut-être qu'on peut revenir à la source de cette idée qu'on associe à peu près toujours l'idée de relance à Keynes. Ça, c'est un duo, on va dire, qui fait consensus et ça date de ces années, de cette fin des années 30.
Disons que le cas français est un peu particulier, parce que là, on a une référence à Keynes, mais malheureusement pour lui, l'influence de Keynes sur les politiques économiques, en particulier sur la politique budgétaire, ne se fera qu'après sa mort. C'est-à-dire que il faut se souvenir que l'objectif de la publication de la théorie générale, en 1936, par John Maynard Keynes, l'objectif, il est double, c'est convaincre ses homologues qu'ils font fausse route avec les explications traditionnelles de l'emploi, du chômage. Il explique qu'en fait le chômage de masse, qui était très élevé à l'époque, 15-30% dans certains pays, ne relève pas d'un problème de marché du travail, mais relève d'une insuffisance de la demande effective, comme il l'appelait. Et le deuxième objectif de Keynes, c'était justement de convaincre les policy makers de l'époque, les dirigeants de l'époque, qu'il fallait activer ce type de politique. Alors évidemment, Keynes, lui, était dans une position très particulière parce que dans son propre pays, à Londres, il n'était pas entendu. C'est-à-dire qu'il était en opposition constante avec la vision du Trésor, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui avait plutôt une vision plutôt très critique vis-à-vis des dépenses publiques. Et c'est malheureusement pour lui, c'est après la guerre que l'influence naîtra. Tout à l'heure, on faisait référence également la politique de Roosevelt, le New Deal de Roosevelt ne doit strictement rien à Keynes. Si on doit chercher des références théoriques ou scientifiques dans la politique de relance de Roosevelt, elle se trouve plutôt du côté de certains économistes institutionnalistes américains ou l'école de Stockholm, mais pas du tout chez Keynes.
Qui publie bien après, en 1936, sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc
un peu plus tard, il rencontre également Roosevelt aux États-Unis. Bon, ça se passe pas forcément très bien entre eux, mais en réalité, l'influence est très faible. Quelques années plus tard, Keynes enverra des courriers à Roosevelt en lui expliquant qu'il fallait qu'il ait une politique budgétaire plus expansionniste, qu'il y ait plus de nationalisation. Bon, Roosevelt n'appliquera pas du tout ce que préconisait Keynes à cette période-là.
C'est une théorie absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que jusqu'alors, tous les économistes disaient « Bon, écoutez, il faut que l'État intervienne le moins possible, sinon pour faire respecter les règles du jeu, il faut laisser faire la loi de l'offre et de la demande, laisser faire, laisser passer. » C'est la bonne vieille idée du marché qui s'autorégule et qui retrouve son équilibre tout seul. Et Keynes dit « Non, non, là, il y a vraiment un déséquilibre durable qui va durer. Et pour sortir de ce déséquilibre, eh bien, il faut que l'État se substitue à l'entrepreneur défaillant. Eh bien, il n'y a pas d'investissement privé. Il faut que l'État fasse de l'investissement public et fasse de la dépense
pas
publique.
Pas dans n'importe quelle condition, parce qu'il est nécessaire de prendre des décisions qui ne seront pas prises par d'autres quand on est l'État, mais il ne faut pas les prendre à contre-temps.
Non, il faut donner du pouvoir d'achat, il faut que de l'argent circule, il faut que les gens aient envie de consommer, et ayant envie de consommer, eh bien, ils créeront leurs propres revenus. Ce qui est tout à fait révolutionnaire, ce qui est complètement une théorie de la relativité par rapport à la physique newtonienne. C'est-à-dire que Keynes dit, vous allez donner de l'argent, et par cet argent qui va être consommé, les gens vont créer leur propre salaire futur. C'est incompréhensible pour la plupart des économistes.
Jacques Mistral, est-ce que vous souscrivez aux propos de Bernard Maris qu'on entendait ici dans un extrait de l'émission Le Vif de l'Histoire sur France Inter en 2012 ? La pensée de Keynes est une révolution ?
D'abord, si c'est de Bernard Maris, ça ne peut être que l'occasion d'un souvenir bien amical. Évidemment, je partage tout à fait sa vue. À une nuance près, toutefois, je partage sa vue et ça rejoint un peu ce que nous discutions il y a un instant. C'est-à-dire que, au-delà de l'aspect macroéconomique, conjoncturel ou structurel, en vérité, dans toute cette discussion sur le changement de conception des relations entre l'État et le marché. Ce qui était en jeu à la fin des années 30, c'était beaucoup plus que la macroéconomie ou que la protection sociale, c'était la survie de la démocratie. Et ça, c'est un élément assez important à souligner parce que ça peut évoquer certains débats d'actualité. Alors, pour le coup, également, n'est-ce pas? Donc, dans les années 30, les économistes jouaient un rôle dangereux en prétendant que les problèmes se régleraient d'eux-mêmes, comme ça vient d'être dit, et les politiques... D'abord, Jean-François Ponceau vient de le dire à juste titre, ce sont les politiques qui ont réagi en disant « la démocratie est en danger et nous, politiques, nous ne pouvons pas laisser les choses aller au fil de l'eau parce que le résultat, c'est soit le fascisme, soit le soviétisme ». Donc, c'est, j'insistais dans mon propos liminaire sur l'interdépendance entre l'économique et le politique, entre l'État et le marché. C'est très caractéristique de cette époque, de ce basculement entre les années 30 et celles que l'on abordera dans un moment, de la reconstruction des années 50, des 30 glorieuses. C'est l'idée, véritablement, que cette interdépendance entre économie et politique va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'économie, par les conséquences qu'elle a sur le plan social, sur le terrain du chômage, des inégalités, l'économie a des conséquences politiques importantes, et la politique, en sens inverse, par les choix qui sont faits en termes de budget, en termes de taux d'intérêt, mais sur toutes les questions structurelles qui ont été brièvement introduites, exerce également une influence très importante sur l'économie. Donc cette interdépendance, c'est ce que j'ai cherché à... Et c'est ce qu'on va voir dans les Trente Glorieuses, n'est-ce pas? Une bonne concordance entre des règles de politique économique, d'intervention de l'État et le dynamisme de l'économie. J'ai essayé, dans mon livre « Économie et politique en France », de voir s'il y avait d'autres circonstances que ces fameuses Trente Glorieuses. Et effectivement, on trouve qu'il y a des moments, des périodes historiques, pendant lesquelles cette concordance est à l'œuvre et on voit des périodes parfois plus séculaire de croissance très rapide, soutenue, de transformation de la société, et d'autres au contraire de blocage. Donc c'est un lien, j'ajoute un terme à vos trois R, n'est-ce pas, vous avez mis relance, rigueur, régulation, j'en ajoute un qui est régime, c'est-à-dire régime d'économie politique pour souligner cette interdépendance réciproque des deux sphères économiques et politiques.
Jean-François Ponceau, beaucoup de choses viennent d'être dites, mais peut-être avant de continuer à avancer dans les circonstances historiques de l'application de ces plans de relance, j'aimerais qu'on comprenne bien quand même d'un point de vue théorique, qu'est-ce que nous dit Keynes, finalement, et très, très concrètement, comment il conçoit l'idée d'une politique de relance?
Alors, qu'est-ce qu'a dit Keynes? Alors ça, c'est une question qui est quand même compliquée, parce qu'en réalité, chacun a son interprétation de Keynes. Alors, moi, j'ai tendance à relire Keynes dans le texte. Malheureusement, tous les textes de Keynes n'ont pas été publiés et on retient essentiellement la théorie générale de Keynes. Or, si on s'intéresse à cette question du rôle de l'État, à cette question de la politique budgétaire, on ne peut pas passer sous silence une autre notion ou une autre théorie que Keynes avait développée dès la fin des années 1920, qui est la théorie de la socialisation de l'investissement. Je veux dire par là que plus que le recours au déficit budgétaire pour essayer de relancer la machine à travers des dépenses d'investissement public qui vont générer a priori une relance de la croissance. En réalité, le message profond de Keynes, si on prend sur l'ensemble de son œuvre sur cette question-là, c'est plus l'idée que l'investissement privé n'est pas toujours suffisant pour maintenir un niveau de plein emploi et n'est pas toujours suffisant non plus pour garantir la prospérité généralisée. Lorsqu'il parle de socialisation de l'investissement, en réalité, il parle pas du tout de socialisation des moyens de production. Il dit simplement que l'État a un rôle majeur à jouer, les entités publiques et semi-publiques ont un rôle à jouer en complément ou en coopération avec le secteur privé. Il croit beaucoup à ce que Keynes appelait l'homme d'État, c'est-à-dire l'homme d'État inspiré, pragmatique, qui voit à long terme, qui fixe un cap en termes de politique économique. Et c'est plus ça, à mon avis, qu'il faut retenir sur la politique budgétaire chez Keynes que simplement une politique budgétaire conjoncturelle à un moment très précis pendant quelques mois. Et malheureusement, on a tendance à oublier cette question-là. À mon sens, cette question, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, finalement, on a la même question qui se pose. C'est-à-dire, si on veut faire de la politique budgétaire, Est-ce qu'on fait de la politique budgétaire simplement ponctuellement pour relancer la croissance telle qu'elle existe parce que on est passé sous 1% de croissance? Ou est-ce qu'on veut transformer, relancer le modèle économique aujourd'hui à bout de souffle et essayer de l'orienter sur des nouvelles priorités qui correspondent à celles de notre époque, comme la transition, la transformation de la société? Je crois que c'est quand même ça le message principal de Keynes. Alors comment on explique le fait qu'on a, retenu essentiellement le message de la théorie générale et de la relance budgétaire? Bon, c'est parce que c'est la faute de Keynes lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il publie la théorie générale, son objectif, c'était véritablement d'avoir un impact sur la science économique et sur les politiques économiques. Hein, il y parviendra, mais malheureusement, ça va se faire au détriment de d'autres apports de Keynes qui, malheureusement, sont parfois oubliés.
Et par ailleurs, on peut aussi mentionner l'idée de l'effet multiplicateur que Keynes a contribué, en très grande partie à affiner. C'est cet effet multiplicateur-là qui vient justifier les dépenses publiques aussi.
Oui, alors cet effet multiplicateur, attention, c'est pas Keynes qui l'a inventé, entre guillemets, c'était déjà travaillé par d'autres économistes, en particulier son collègue Richard Kahn, dès 1931, et puis d'autres. C'est l'idée que effectivement, si on augmente les dépenses d'investissement public, les dépenses publiques, eh bien, on va avoir en retour des recettes qui vont être plus importantes que la dépense de départ. Hein. Et donc, finalement, ça va générer un effet positif sur la croissance et sur le niveau de l'emploi.
France Culture.
Oh non, alors non, c'est une catastrophe.
Entendez-vous l'écho?
Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup moins bien, forcément.
Aliette Ovin.
Jacques Mistral, après la Seconde Guerre mondiale, forcément, l'économie marche beaucoup moins bien, pour reprendre le constat de Bourvil qu'on entendait à l'instant. Alors, quelle est l'urgence? Relancer la demande, stimuler l'offre en soutenant les entreprises? Qu'est-ce qui s'impose à cette époque-là?
Alors là, on passe très vite à la reconstruction, un cinquième R. Je voulais quand même ne pas laisser passer ce que Jean-François Ponceau vient de dire sans réagir, parce que d'abord, l'idée que on réduit Keynes au multiplicateur et soutien budgétaire de la demande, c'est une caricature, n'est-ce pas? J'ai commencé, par exemple, parmi beaucoup d'économistes, par dire qu'effectivement, c'était ce changement de regard entre l'État et le marché, et que, par conséquent, ce que Jean-François Ponceau appelle la socialisation, c'est quelque chose qui est très loin d'être oublié. Et évidemment, le fonctionnement des économies contemporaines est incompréhensible pour un économiste du 19e siècle. Il y a un acquis complet de ce changement de perspective sur le rôle de l'État et de l'économie. C'est particulièrement vrai en France, mais c'est également vrai aux États-Unis, n'est-ce pas? Monsieur Biden est un parfait représentant de ce que explique Jean-François Ponceau. Donc, l'héritage est assumé, et simplement, il faut être beaucoup plus précis, et on va l'être dans les minutes qui viennent, sur la façon dont on comprend l'héritage, parce qu'on a un petit peu, si le terme de relance est clair sur le plan conjoncturel, on hésite sur ce qu'on va mettre derrière les relances structurelles. Et en tout cas, il y a une chose que je ne peux pas laisser passer, c'est l'idée que le multiplicateur apporterait des recettes excédentaires par rapport à celles que l'on dépense au départ. Ça, c'est quelque chose qui n'a aucun fondement intellectuel, théorique ou comptable. Le multiplicateur est un mécanisme qui explique que lorsque, dans un état de sous-emploi des capacités de production important, l'État augmente la dépense, par exemple, par un investissement ou par une dépense sociale, la dépense initiale se propage parce que les récipiendaires de cette dépense, des entreprises ou des salariés, vont eux-mêmes dépenser des salaires ou des biens de consommation et qu'il y a donc un effet de multiplication. C'est tout à fait élémentaire et c'est totalement acquis dans la pensée économique, bien sûr, en situation de sous-emploi caractérisé, de sous-emploi des capacités. Il faut qu'il y ait des capacités de production disponibles et on aura l'occasion de revenir sur ce point. Mais en aucun cas, et contrairement à ce que prétendent encore certains programmes politiques au moment des élections, en aucun cas le ministère des Finances ne récupère plus de recettes que ce qu'il a mis au départ.
Jean-François Ponceau, on a bien compris que l'idée d'une conjoncture qui a toute son importance, et notamment de sous-emploi, est finalement déterminante pour le bon fonctionnement de ce fameux effet multiplicateur. Mais justement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément le cas. Et c'est pour ça, comme vous le disiez un peu plus tôt, que les théories de John Maynard Keynes reviennent sur le devant de la scène.
Oui, oui. Je suis pas sûr qu'on soit en désaccord profond avec Jacques Mistral sur cette question-là. Simplement, effectivement, l'effet multiplicateur, chez les économistes, fait l'objet de polémiques depuis très longtemps, notamment sur la mesure de l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que si on augmente la dépense publique de 100, combien on aura comme effet multiplicateur? Alors les travaux là-dessus, les travaux empiriques sont multiples, sont assez divergents, un peu moins récemment. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un multiplicateur, un effet multiplicateur qui soit supérieur à 1. C'est-à-dire que si j'augmente la dépense de 1 euro, eh bien, il faut que ça génère une activité qui soit supérieure à 1 euro en retour en effet cascade. Bon. En réalité, cet effet multiplicateur, aujourd'hui, il se situe, ça dépend des études, mais si je reprends les travaux de mes collègues Marie Dallery et puis Sébastien Charles, qui travaillent là-dessus, pour un pays comme la France, l'effet multiplicateur, il se situe aux alentours de 1,4. Bon. Ça veut dire que effectivement de la relance budgétaire, notamment en période de ralentissement économique, c'est efficace. C'est efficace pour relancer la croissance. Après, évidemment, il y a le débat, qu'est-ce qu'on fait avec la croissance ? Pour revenir maintenant aux 30 Glorieuses, bon, les 30 Glorieuses, c'est vrai que c'est une période un peu très particulière. On a tendance aujourd'hui à idéaliser cette période. On a l'impression que c'est un peu un âge d'or, cette période du fordisme qui génère de la prospérité pour les ménages, notamment dans les pays européens. Bon, on a cette image-là parce que tout simplement, les ménages ont augmenté leur niveau de vie, leur consommation. Mais c'est un modèle qui finalement s'est révélé efficace pendant seulement... une quinzaine, une vingtaine d'années, pas plus. Hein. On parle de 30 glorieuses, mais en réalité, cette période a été quand même beaucoup plus courte que ça. Et c'est une période qui se caractérise à la fois par une production de masse et par une consommation de masse. Et finalement, pourquoi ça fonctionnait à l'époque, enfin dans un pays comme la France en tout cas, ça fonctionnait parce qu'en fait, au-delà de simplement l'effet multiplicateur, c'était en fait surtout un régime politique. J'aime bien l'expression qu'a utilisé Jacques Mistral tout à l'heure, ou un régime économique très particulier. On avait à l'époque un compromis relativement simple, une espèce d'accord de consensus au sein de la société pour dire bon ben OK, on va augmenter vos salaires et puis avec ces salaires vous allez pouvoir vous équiper en télévision, en automobile, etc. Mais la contrepartie, c'est qu'il doit y avoir d'importants gains de productivité. Donc il y avait ce deal, augmentation des salaires réels en contrepartie de gains de productivité. Et finalement, tout le monde était content. Les entreprises qui produisaient, qui vendaient plus, et puis les consommateurs qui s'équipaient beaucoup plus. Donc au-delà de simplement l'effet politique keynésienne avec notamment politique budgétaire, je crois que c'est plutôt cette idée d'un régime fordisme qui s'appuie à la fois sur la production et la consommation de masse.
Et effectivement, il faut dire que le contexte joue un très grand rôle. Il ne s'agit pas de relancer en fait une économie, mais de reconstruire la France. Finalement, Jacques Mistral, est-ce qu'on peut dès lors parler d'un plan de relance qui connaît un certain succès, ou tout simplement les circonstances faisaient que ça n'aurait pas pu rater de toute façon?
À mon avis, le mot relance est tout à fait inapproprié. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Ponceau, forcément, pour avoir écrit moi-même pas mal sur cette question du fordisme. Les Trente Glorieuses ont à voir avec le keynésianisme, disons, un lien très direct, au sens que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire au sens où les pouvoirs publics sont en première ligne pour veiller à ce que le potentiel de l'économie se concrétise. Et ce potentiel a été très bien résumé en disant que c'était dans le couple augmentation des salaires réels, augmentation de la productivité, que s'est joué le fordisme. Dans ces deux termes, il faut bien voir les deux éléments que je crois le plus important, c'est localement, de manière, si on peut dire, microéconomique, le fait que le potentiel économique recelé au lendemain de la guerre des perspectives de gains de productivité formidables. Comment le sait-on, ça? Eh bien, on le sait non pas parce qu'on est keynésien ou économiste ou scientifique, on le sait parce qu'on a vu la machine de guerre américaine. On le sait parce qu'on sait qu'on peut désormais produire des chars, produire des jeeps, produire des bateaux, produire des avions, produire des bombes à une échelle qui est absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité et qui était totalement sous-estimé dans les années 30. Bien sûr, il y a eu Ford et son célèbre Model T, il y a eu Monsieur André Citroën en France et c'est le développement des usines de Javel. Donc, il y avait des prémices, mais la réalité qui a dessillé les yeux sur ce qu'était le potentiel économique, c'est l'effort de guerre américain. Et c'est tellement vrai d'ailleurs au niveau microéconomique que les pouvoirs publics ont joué leur rôle en envoyant des missions de productivité aux États-Unis pendant des années pour familiariser les industriels français avec les méthodes de production, les techniques américaines. Donc, productivité et en aval de la productivité, parce qu'il n'y a pas de compromis s'il n'y a pas de gain de productivité qui soit à partager. Et en aval, il y a ce qui a été dit, le compromis économico-social, qu'un un économiste américain avait joliment baptisé la poignée de main invisible, n'est-ce pas, par référence à la main invisible de Smith. Donc là, il y a entre le management et les syndicats une poignée de main invisible pour que ce cycle productivité-salaire s'enclenche bien. Et c'est le rôle de la philosophie politique keynésienne que d'avoir enveloppé ce changement économique et social dans les changements institutionnels qui se sont produits au moment de la reconstruction, en particulier avec le mécanisme de la protection sociale et l'intervention active de la fiscalité et de la dépense budgétaire pour soutenir la croissance. On va développer tout ça.
Juste pour qu'on soit bien clair, si je vous comprends bien, l'idée de Keynes, c'est essentiellement que la relance passe par une relance de la demande, de la distribution du pouvoir d'achat, c'est ce qu'on entendait dans la voix de Bernard Maris. Et là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises, vous parliez du secteur automobile américain, mais qui a inspiré le modèle français, les entreprises aussi sont sollicitées. C'est pour ça que ça fonctionne.
Mais pour une raison simple, c'est que les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses et dans tous les domaines. Il y a des besoins immenses dans le domaine du bâtiment, donc dans les cimenteries et la scierie et le vitrage, dans les domaines des infrastructures, donc des routes, des matériels de transport, des voies ferrées, des locomotives. Donc il y a un potentiel de demande, on n'est plus du tout dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure, de capacité de production inemployée. La reconstruction, c'est d'abord de remettre sur pied ce qui pouvait exister auparavant, puis de créer les conditions pour que l'offre puisse satisfaire une demande que l'on pressent effectivement en croissance très rapide.
Alors, on l'aura compris, hein, en matière de politique de relance, tout est une question de fléchage et surtout de durée. Il s'agit certainement de savoir quand l'arrêter, mais en tout cas pas tout de suite, pas maintenant, nous dit Freddie Mercury. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Sonic woman of you. Don't stop.
Relance, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le sujet d'Entendez-vous l'écho aujourd'hui sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Alex Drang. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Jacques Mistral et Jean-François Ponceau. Alors on s'est quitté sur l'idée d'une relance telle qu'elle est conçue par Keynes, plutôt efficace en fonction des contextes, en tout cas qui porte ses fruits dans la période d'après-guerre, mais qui montre aussi certaines limites à la fin des années 70, des limites incarnées par la persistance du chômage et l'apparition du déficit commercial. Jacques Mistral, ce déficit commercial est la confirmation de la théorie, entre autres, de Robert Barrault en 1974, qui estimait que lorsqu'une politique de relance est financée par l'emprunt, les agents économiques anticipent, de façon assez rationnelle, une future hausse des impôts. Et cette hausse va être exigée pour rembourser la dette contractée afin de financer ce plan. Et en conséquence, tous ces agents économiques, un peu effrayés par cette perspective, choisissent d'épargner plutôt que de consommer. Et là, c'est tout le mécanisme de Keynes qui se grippe.
Là, vous avez proposé aux auditeurs
un résumé.
Assez sophistiqué, hein, je dois dire, en évoquant ce qui s'appelle cette théorie, la nouvelle théorie classique de cette période. Je vais tâcher de l'expliquer de manière plus basique. Et en évoquant un premier souvenir d'économiste, c'est que j'ai commencé au ministère des Finances, j'ose pas dire quand, mais c'était au lendemain de la dévaluation de 1969, et j'étais chargé de la projection de la balance des paiements, consacré à cela, et le Fonds monétaire international avait ses bureaux dans l'immeuble voisin. Parce que, en 1969, la France se trouvait, comme la Grèce il y a quelques années, dans une situation de totale insolvabilité au lendemain des événements de 68, et a dû faire ce qui s'appelle, et qui sera l'objet de demain, un plan de rigueur, mais sous surveillance, avec des financements et sous surveillance du Fonds monétaire international. Alors pour en rester à la relance, et donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux sophistications de Robert Barrault pour expliquer ce qui se passe, dans les années 60, les Trente Glorieuses ont produit leurs effets, même si elles ne sont que 20, à juste titre, a remarqué Jean-François Ponceau. Et du coup, chaque économie, les économies industrialisées de l'époque, avaient une certaine façon d'agencer l'offre et la demande. Certains étaient déjà des pays excédentaires sur le plan commercial, comme vous l'introduisiez, donc l'Allemagne et le Japon principalement, et d'autres étaient dans une position de grande fragilité en matière commerciale et de balance des paiements, l'Angleterre et la France. Et pour ces deux pays, donc, les politiques de relance ont abouti à un mécanisme qui s'appelle le stop and go, c'est-à-dire un mécanisme dans lequel une tentative pour stimuler un peu l'économie, elle est un peu mieux que ce que elle fait toute seule, débouchait très rapidement sur un déficit extérieur parce que la capacité de production était absente, les réserves de change insuffisantes, et donc il fallait stopper. Et ce couple stop and go a été particulièrement fatidique en grande Bretagne, où il a conduit, puisqu'on n'aboutissait nulle part, il a abouti à la révolte thatchérienne, disons. C'est de là qu'est venu le constat d'échec de ces politiques incapables de sortir de ce couple vicieux. En France, pour terminer sur ce point, les choses ont été un petit peu différentes. C'est-à-dire que j'ai évoqué la dévaluation de 69. Auparavant, il y en avait eu d'autres, bien d'autres, en 58 en particulier. Une dévaluation très sévère au moment de la faillite de la 4e République et l'entrée dans le marché commun. Et ces deux dévaluations ont eu un effet de stimulation très important sur l'économie française. Donc pendant les années 60, les choses ont bénéficié en France de l'effet de 58. Et après 68, il y a eu l'accident de 69, mais cette dévaluation de nouveau et les politiques économiques qui ont été mises en place à ce moment-là, qui étaient baptisées du nom d'impératif industriel, ont stimulé la croissance industrielle de manière absolument frappante. Donc la France a été soumise à ce mécanisme de stop and go, mais elle en a tiré un bien meilleur profit jusqu'au choc pétrolier.
Nous ne renverserons pas avant plusieurs mois la tendance dont nous héritons à l'accroissement du chômage. C'est pourquoi le gouvernement vous proposera en décembre d'adopter un plan de 2 ans dont le ministre d'État, ministre du Plan, entreprend aujourd'hui l'élaboration. Ce plan a pour but la mise en œuvre rapide d'une politique pour l'emploi, appuyée sur un effort accru de solidarité nationale. Il comprendra les grandes réformes de structure, l'extension du secteur public, la décentralisation et un nouveau partage du travail. Au cours du plan de 2 ans, nous lutterons contre le chômage en relançant plus durablement l'activité. Nous créerons 210 000 emplois publics ou d'initiatives locales, suivant le programme qui a été entamé en juin.
En 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Pierre Mauroy est nommé Premier ministre. On l'entendait au journal d'Antenne 2 en juillet 1981. Jean-François Ponceau, c'est une nouvelle idée de la relance qui tente alors de s'imposer.
Oui, alors il y a eu ce virage de 83 qui a déçu énormément de monde parmi les électeurs de François Mitterrand. C'est vrai que il y a eu un revirement par rapport à ce qu'on pouvait attendre de la politique économique qui avait été annoncée au départ. Alors, il me semble quand même que ce contexte de la France est un contexte un peu particulier si on compare à l'économie mondiale à l'époque. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, les politiques de stop and go n'ont pas eu les mêmes effets partout. À cela s'ajoute qu'on est dans une période d'accélération de la globalisation, d'ouverture économique. Donc, de fait, les politiques budgétaires, en tout cas de relance budgétaire, sont beaucoup moins efficaces, a priori, si on est davantage ouvert. Il y a une multiplication de chocs exogènes. Ça peut être, par exemple, sur le prix du pétrole ou une très forte poussée de l'inflation. Bref, on se retrouve dans un contexte où effectivement les politiques, on va dire traditionnelles, d'inspiration keynésienne, parce qu'elles sont pas vraiment 100% keynésiennes, ne fonctionnent plus. Et donc on va mettre en place des nouvelles politiques économiques complètement à l'opposé. Typiquement, dans le cas des États-Unis ou du Royaume-Uni, on met en place des politiques d'inspiration monétariste, libérale, ultra-libérale, on peut appeler ça comme on veut. En France, on a fait un autre choix. On a essayé de mettre en place une politique d'inspiration keynésienne au départ, et puis au bout de 2 ans, on change de braquet. Alors, en revanche, où je trouve qu'il y a une interprétation qui est l'objet d'une discussion importante, c'est lorsqu'on cherche des références théoriques pour expliquer, l'échec ou l'inefficacité ou le manque de pertinence des politiques keynésiennes à partir des années 1970. Il me semble que se référer aux travaux de la nouvelle économie classique, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal parce que si on regarde les analyses empiriques, les études empiriques, elles tendent à invalider en fait des hypothèses de base de la nouvelle économie classique de l'époque, qui venaient justement remettre en cause l'impact positif des dépenses publiques. Je pense par exemple à ce qui a été mentionné tout à l'heure, par exemple l'équivalence ricardienne, cette idée que si on fait de la dépense publique supplémentaire, eh bien les agents économiques vont anticiper des hausses d'impôts. En réalité, dans les faits, d'un point de vue empirique, c'est pas vérifié systématiquement ça, c'est même des fois l'effet inverse qui se produit. Une autre limite de cette approche-là, c'est la théorie des effets d'éviction. Les effets d'éviction, c'est l'idée selon laquelle si l'État dépense plus pour réaliser des dépenses publiques, eh bien, ça va être de l'argent en moins que pourra utiliser le secteur privé pour investir. Bon, là encore, d'un point de vue empirique, ça tient pas la route, c'est pratiquement pas vérifié. Donc, s'appuyer sur la nouvelle économie classique pour mettre en évidence les limites de l'approche keynésienne, j'avoue que c'est un petit peu, ça me dérange un petit peu. Je pense que l'approche keynésienne a déjà suffisamment de critiques internes ou d'incohérences qui permettent d'expliquer pourquoi elle fonctionne dans certaines circonstances et pas dans d'autres.
Mais est-ce que vous diriez, justement, du fait de ces insuffisances-là internes à la théorie elle-même, ou en tout cas au mécanisme lui-même, est-ce que vous diriez que, Jean-François Ponceau, les politiques budgétaires expansives qui passent par la dépense publique connaissent finalement une fin d'époque à ce moment-là et c'en est fini un peu de cette croyance en l'injection de dépenses publiques?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années 1980, on rentre dans une période nouvelle de globalisation, de libéralisation. Et c'est vrai que les politiques interventionnistes, avec un rôle important de l'État, et donc la politique budgétaire, eh bien, elles sont mises de côté. Il me semble que la période où la politique budgétaire va être le plus mise de côté, c'est vraiment les années 1990 et 2000. Et il faudra attendre la crise financière globale pour avoir à nouveau cette idée que la politique budgétaire, on peut s'en servir, en particulier pour sortir d'une crise.
Et justement, vous parliez de cette fameuse crise, donc celle de 2008. Là encore, il va s'agir de relancer une économie sérieusement mise en panne, comme l'explique Nicolas Sarkozy en décembre 2008 à Douai.
Pour soutenir l'activité et compenser le ralentissement de l'investissement privé, l'État prend une autre décision, accélérer les investissements publics programmés pour les années à venir. Cette accélération sans précédent permettra de gagner plusieurs années et de créer tout de suite de l'activité avec des projets susceptibles d'être mis en œuvre très rapidement. Je pense à la rénovation et à l'accélération des projets concernant les infrastructures routières, tant de projets qui sont dans les cartons, ferroviaires, fluviales. Je pense aux investissements dans les bâtiments et les équipements de la recherche et de l'université. Eh bien, au total, sur 2009 et 2010, l'accélération de l'investissement public représentera pour l'État 4 milliards d'euros de plus pour réaliser des investissements qui dormaient dans les cartons et dont la France a besoin pour améliorer sa compétitivité.
Alors ce fameux plan de relance annoncé par Nicolas Sarkozy impliquait l'injection de 26 milliards d'euros dans l'économie. On parlait de relance avec Keynes, de reconstruction après Seconde Guerre mondiale. Là, de quoi il s'agit, Jacques Mistral, de sauver l'économie carrément ?
Oui, je reprends votre terme. C'est, à mes yeux, c'est une politique de sauvetage, c'est-à-dire une réponse... En écoutant Nicolas Sarkozy, je crois qu'on a la preuve que les idées keynésiennes sont très profondément dans la mentalité des hommes politiques contemporains, même de droite, n'est-ce pas, ce que je disais tout à l'heure. Donc on est en pleine socialisation de l'investissement, comme on l'évoquait au début de cette émission. Donc ce sont des moments keynésiens, et c'est à Keynes, encore une fois, que conjoncturellement, on doit la rapidité de cette réaction, c'est-à-dire que tous les travaux qui ont été faits sur la Grande Dépression ont bien montré que c'était une réponse inadéquate qui avait amplifié progressivement, par un effet multiplicateur négatif de contraction de la demande, qui avait amplifié le choc initial et transformé ce qui était un choc sérieux en une catastrophe pluriannuelle. Donc ce sont des moments keynésiens et on y répond par des moyens keynésiens. Il y a aucune surprise. À mes yeux, sur cette affaire-là, si ce n'est la façon dont on en sort 15 ans plus tard, puisque nous en sommes à l'héritage, vous en parlerez dans vos autres émissions. Mais je souhaite revenir 30 secondes quand même sur 1983, sur lequel on est passé très rapidement, alors que ce qui s'est passé là, c'est une tragédie pour la vie économique et politique française, n'est-ce pas ? Je veux dire par là une tragédie parce que le fait que on croit encore qu'il y avait en 81 la possibilité de quelque chose qui soit les politiques de relance et d'étatisation des années 60. On a discuté dans ce qui précédait le fait que c'était des politiques qui échouaient au bout de 2 ans, stop and go. Donc 83, c'est stop and go, point. Et le fait qu'il y ait une nostalgie, que le fait que ça soit une trahison, c'est quelque chose qui empoisonne le débat de politique économique en France et qui nous empêche d'avoir un régime d'économie politique dans lequel, effectivement, l'économie fasse le mieux possible, la politique le mieux possible, et que les deux débouchent sur un compromis en matière de distribution des revenus, d'égalité, de niveau de vie, etc., qui soit acceptable, comme ça l'était au moment de la poignée de main invisible.
Jean-François Ponceau, de la nostalgie qu'évoquait à l'instant Jacques Mistral de ces fameuses années 80 au discours de Nicolas Sarkozy qu'on entendait à l'instant, qui venait presque réhabiliter finalement les théories de Keynes. Comment vous situez-vous ? Vous diriez que les années 2010 marquent finalement une victoire keynésienne ?
Moi, je ne parlerai pas de nostalgie parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. Et bon. Mais en réalité... Je comprends le où on partage pas le même point de vue avec Jacques Mistral. C'est qu'en fait, je pense que Jacques Mistral défend une conception de la relance plutôt de type conjoncturel. Donc effectivement, conjoncturel, c'est-à-dire on va faire de la relance budgétaire pendant quelques mois, et puis ensuite on passera à autre chose, quitte à faire de l'austérité budgétaire un an ou 2 ans plus tard. Ça, donc là, dans ce cas-là, effectivement, Nicolas Sarkozy peut être qualifié de keynésien ou de keynésien light. On peut considérer qu'Emmanuel Macron, avec le quoi qu'il en coûte, a été un keynésien avéré. En réalité, ça, c'est ce qu'on appelle, avec un collègue, Jonathan Marie, on appelle ça du keynésianisme de circonstance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour éviter que l'économie s'effondre, eh bien, on s'affole et tout d'un coup, on injecte de l'argent public pour essayer de sauver le système. Bon, en réalité, en plus, c'est pas toujours efficace parce que c'est pas forcément ciblé. En réalité, le keynésianisme par la politique budgétaire, c'est quelque chose, encore une fois, qui est sans doute aussi structurelle. C'est-à-dire que l'homme d'État, dont je parlais tout à l'heure, en faisant référence à la théorie de la socialisation de l'investissement chez Keynes, l'homme d'État, c'est celui qui fixe un cap de long terme. Et donc, ça signifie qu'on va réaliser des dépenses d'investissement public sur longue période, et pas uniquement au coup par coup, au moment où on s'affole et où il faut sauver le système, en quelque sorte.
Mais cela dit, c'est intéressant, justement, dans l'actualité de ce qu'on a connu il y a à peine quelques années avec la crise du Covid, évidemment, le fameux plan France Relance, était
exactement
aussi dans cette optique.
Et exactement.
Et selon vous, ça risque de ne pas être efficace parce que c'était uniquement dans l'après-Covid.
Disons que si vous allez sur le site du ministère de l'Économie et des Finances et vous regardez le plan France Relance, ce qu'il en est, la première chose qu'on voit, c'est que le site n'est plus mis à jour. C'était seulement il y a 2 ans, cette histoire-là. Et on nous expliquait à l'époque qu'on allait mener une politique de relance pour transformer la France, une transformation écologique, industrielle et sociale. Je reprends les termes de l'époque. Et là, aujourd'hui, on nous annonce, il y a quelques semaines, le gouvernement publie un décret disant qu'on va faire un plan d'économie de 10 milliards. Bon, il n'y a aucune cohérence dans cette politique. D'un point de vue keynésien, c'est pas du tout cohérent. Une politique keynésienne cohérente, c'est faire de la relance un moment où il y a un ralentissement évident de l'économie, mais c'est aussi une politique structurelle de long terme. Et je crois que malheureusement, ça, on a tendance à l'oublier.
Jacques Mistral, si on se concentre uniquement sur des politiques conjoncturelles, on risque d'avoir très vite un retour de bâton, qui est justement ces coupes budgétaires.
Ah mais on est à la veille, effectivement. Mais oui, on est à la veille d'un stop, forcément. Cela dit, je suis absolument d'accord avec ce que vient d'esquisser comme perspective Jean-François Ponceau. Le terme qui m'était venu à l'esprit pour résumer ma pensée sur ce débat entre la conjoncture et les structures, c'est de dire que d'une certaine manière, je défends un keynésianisme compétitif, c'est-à-dire que un keynésianisme qui subit des niveaux d'impôts, des niveaux de dépenses, des niveaux de déficit public, des niveaux de dette extérieure et un déficit de la balance des paiements considérable, c'est un keynésianisme qui n'a pas les moyens de sa politique. Et donc il faut retenir de tout ce que nous avons dit, à mes yeux, cette idée de la responsabilité de premier plan des pouvoirs publics, du gouvernement, du Parlement, dans la conduite des affaires économiques, de ce lien avec la société civile, avec le marché. Mais il faut que ces mesures soient inspirées par le souci, disons, de la compétitivité ou de l'efficacité, comme on veut, c'est-à-dire quelque chose dans lequel la bijection entre productivité et pouvoir d'achat du fordisme retrouve son sens.
Un grand merci à tous les deux, Jean-François Ponceau et Jacques Mistral. Jacques Mistral, je rappelle que vous avez publié La science de la richesse chez Gallimard en 2019. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, une émission qui est à retrouver sur le site de France Culture, si vous souhaitez la réécouter, ou sur l'application Radio France, où elle est disponible en podcast. Measuring once, cutting it twice, click it back in, nearly as nice, sorting it out, stacking up piles, take it back down, error by trial, stuck in a room, tidy it up, not good enough. Sitting up straight, sharp as a tack, snatching it off them, grabbing it back, good to be honest, stings a bit too, can only be you, rebuilding you. Not what you wanted, not knowing when. Both ways were holding, owing to them. Stuck in a room. This place is rough. Hold up till spring. On se quitte avec Stuck in a Room de This is the Kit. Merci à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Anouk Millot qui l'a préparée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Diane Devancet, Laurence Jeunepin, Tina Young, Léopold Thiévin et Inès Gender. Merci enfin à Vincent Elie qui a assuré le duplex depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble. Growing